19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour notre émission avec cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Philippe et Jennifer. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Et bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Ça va être une bonne émission. Et puis bien sûr, on est ravis de retrouver Charline, ou d'accueillir même pour la première fois Charline et Élise de l'association Maison Olympe.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, dans cette émission, nous allons parler de l'actualité, bien sûr, et on va écouter deux chroniques. La chronique de l'antenne jeune d'Amnesty Angers, dite par Jennifer. Et on aura une chronique surprise. On finira bien évidemment par l'agenda militant et culturel. Mais on va commencer tout d'abord par l'éditorial de Philippe, qui va nous parler de TikTok.
Oui, à l'approche de la Journée mondiale des droits de l'enfant, Amnesty vient de publier deux rapports alertant sur la dangerosité de TikTok pour les jeunes. De quoi s'agit-il ? TikTok est une plateforme de réseaux sociaux qui héberge des vidéos en format court. Elle appartient à l'entreprise technologique chinoise ByteDance Limited. La popularité mondiale de TikTok s'est considérablement accrue en 2020 et 2021 pendant la pandémie de Covid-19, car les personnes coupées de leurs interactions sociales habituelles ont passé évidemment plus de temps en ligne. En l'espace de quelques années seulement, TikTok est devenue l'une des plus grandes entreprises de réseaux sociaux au monde, avec plus d'un milliard d'utilisateurs, dont beaucoup sont des enfants âgés de 13 à 17 ans.
Mais pourquoi parler de dangerosité ?
Par exemple, le fil pour toi de TikTok est une page extrêmement personnalisée, qu'il est possible de faire défiler à l'infini. Ce fil est optimisé pour prédire avec une précision étonnante quel contenu plaira à un utilisateur précis et le maintiendra engagé le plus longtemps sur cette plateforme, facilitant ainsi la collecte d'un nombre toujours plus important de données. Les enfants et les jeunes qui regardent par exemple des contenus liés à la psychologie sont rapidement entraînés dans des spirales de contenus qui idéalisent et peuvent encourager les pensées dépressives, l'automutilation, voire le suicide.
Quel est le modèle économique de cette plateforme ?
Eh bien, il privilégie la participation pour conserver l'attention du public afin de collecter toujours plus de données personnelles. TikTok se sert ensuite des données récoltées pour cibler davantage certaines catégories de personnes en leur proposant du contenu extrêmement personnalisé et ainsi capter leur vigilance. Ces groupes et catégories sont aussi mis à la disposition de publicitaires qui peuvent ainsi cibler leurs messages en fonction des destinataires.
Et il n'y a pas de mécanisme de protection ?
Eh bien, le niveau de protection de la vie privée des enfants varie en fonction de la région dans laquelle ils vivent. Bien que TikTok, contraint par un cadre législatif européen sur le sujet, ait pris des mesures pour respecter les droits des plus jeunes en Europe, en interdisant la publicité ciblée, cette entreprise l'autorise toujours dans le reste du monde. Certains enfants se trouvent donc plus exposés que d'autres à cette collecte de données.
Et Meta alors ? Alors Meta, ça regroupe Facebook et WhatsApp. Ouais. Hein. Est-ce que c'est plus vertueux ?
Pas du tout. Les défaillances de Meta ont contribué à la commission de crimes. Un seul exemple, le professeur Amaré était un membre tigréen très respecté d'une université éthiopienne. Il a été assassiné devant chez lui en novembre 2022, après que des messages le prenant pour cible ont été publiés sur Facebook. En Éthiopie, par exemple, 85 langues sont parlées, et pourtant Meta n'est capable de modérer que 4 d'entre elles.
Et tu as d'autres exemples de défaillances ?
Oui, en 2017, au Myanmar, plus de 700 000 Rohingyas ont été l'objet d'une campagne d'épuration ethnique menée par l'armée. Et la société Facebook a contribué à ces violences et aux discriminations contre cette population en diffusant et en amplifiant les contenus anti-Rohingyas sur la plateforme. L'entreprise, qui pèse plusieurs centaines de milliards, a refusé toutes les demandes de dédommagement significatif émanant des Rohingyas. Et il faudrait aussi parler des logiciels espions Pegasus et Predator.
Alors dis-moi que la France est épargnée.
Ah, hélas non. Une loi autorise désormais le recours à la vidéosurveillance algorithmique à l'occasion des JO de Paris en 2024. Si de telles mesures sont mises en place, des millions de personnes, qu'elles se dirigent vers des stades ou se rendent en transport public sur les sites, seront suivies et surveillées. Des algorithmes vont scanner et enregistrer les données de toutes les personnes se trouvant dans leur rayon d'action. L'omniprésence des caméras de vidéosurveillance et des drones permettant aux responsables de détecter les activités considérées comme suspectes ou anormales dans la foule est à ce titre particulièrement problématique.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Charline et Élise de la maison Olympe. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Bonjour et merci de nous accueillir pour présenter notre association qui existe officiellement depuis une année.
Donc Maison Olympe existe depuis juillet 2022. Maison Olympe est née d'une rencontre. Je suis médecin généraliste et depuis longtemps, je souhaitais faire un lieu où on proposait une prise en charge globale. Et donc à cette occasion, j'ai rencontré Charline et nous avons formé un beau binôme pour créer Maison Olympe, donc qui existe officiellement l'association depuis juillet 2022 et nous sommes ouverts depuis le 2 octobre sur le quartier de Montplaisir.
Alors pourquoi avoir choisi ce joli prénom d'Olympe ?
Alors c'est une référence évidente à Olympe de Gouges, même si évidemment des femmes, notamment des femmes, se battent pour leurs droits depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que c'était la première référence qui nous est venue à l'idée. Le fait de construire une maison aussi, toutes et tous ensemble, on a des pierres à apporter pour construire un endroit où on se sent en sécurité et en confort. Oui.
Alors vous dites « on ». Mais vous n'avez pas dit pour qui était particulièrement dédiée cette maison, je crois.
L'association Maison Olympe a pour objet de garantir et de proposer une approche globale en santé. Et donc, en fait, l'association est gestionnaire d'un centre de santé, donc qui a ouvert ses portes début octobre. Et ce centre de santé est à orientation gynécologique. Donc, Maison Olympe est ouvert à toute personne qui pousse la porte et qui est à la fois intéressée par l'association et ou qui a besoin de soins en santé gynécologique.
D'accord. Et j'ai vu également que vous allez ou vous proposez déjà des ateliers également.
Alors oui, effectivement, la complémentarité qu'on a, c'est d'associer le pôle médical, donc avec le centre de santé, et des ateliers qui sont animés par le pôle estime de soi. Donc comme le disait Élie, c'est vraiment une vision globale de la santé. Donc c'est pouvoir ouvrir une autre porte aussi aux personnes qui peuvent être éloignées des soins, de pousser la porte autrement, de venir pour réaliser une activité avant de pouvoir recourir à des soins.
D'accord. Alors quels sont les professionnels qui vous entourent également à ce moment-là ?
Alors au niveau du centre de santé, on est vraiment une équipe pluriprofessionnelle avec des professionnels soignants, médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, des accueillantes et pour l'approche sociale, on a une équipe d'intervenants et d'intervenantes sociales. On est aussi lieu de formation parce que dès le début, en fait, ça a été très important pour nous d'accueillir des étudiants et des personnes en alternance. Donc on est nombreuses sur Maison Olympe à travailler et on a également toute une équipe de bénévoles.
D'accord.
Et vous avez des liens particuliers avec certaines associations ? Je pensais au planning peut-être ?
Au début, quand j'ai imaginé Maison Olympe, j'ai avant tout rencontré toutes les associations qui œuvrent sur Angers, particulièrement sur Angers. Donc différentes associations, le planning familial, Solidarité Femmes, l'association Avas, le CIDFF, voilà, j'en oublie peut-être, mais ça a vraiment permis de valider au niveau de tout le maillage associatif l'importance de proposer ce type d'approche en santé sur un quartier prioritaire et à la fois ce type d'approche en santé gynécologique puisque l'idée vraiment de Maison Olympe, c'est de travailler sur les inégalités d'accès aux soins et sur les vulnérabilités. L'approche globale, en fait, elle permet vraiment cette prise en compte des facteurs sociaux, des facteurs de vie qui vont impacter la santé, puisque la santé, c'est pas que du biomédical, c'est tout ce qui fait la vie au quotidien. Et cette approche-là, dans un centre de santé, alors les centres de santé sont des structures très spécifiques, les professionnels sont salariés et c'est un vrai, vrai engagement en santé sociale.
Et c'est pour ça, effectivement, j'ai regardé sur votre site là qui commence à se développer, vous parlez même d'organiser des ateliers cuisine, des ateliers de danse. C'est très diversifié.
Tout à fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ouvrir la possibilité de venir à Maison Olympe par différents biais. Donc on a déjà des ateliers qui ont démarré et qui font plein, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé tout de suite. Mm-hmm. Donc on a par exemple le café Papote une fois par semaine, qui permet de se réunir, voilà, discuter autour d'un sujet de façon peut-être conviviale. Enfin, c'est d'arriver et puis de déposer ce qu'on a à déposer à ce moment-là et de rencontrer, travailler le lien social aussi. On a un groupe Oxygène, donc des groupes de parole marché, puisque c'est pas toujours évident de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Donc là, c'est aussi cette occasion-là. Ouais, et on a plein d'autres projets qui ont déjà démarré. Mais alors, il y a des ateliers qui ont démarré, par exemple, en septembre, le projet Bulle, par exemple, un cycle de 5 ateliers avec de la socio-esthétique, de la danse, voilà, des groupes de création collective.
Oui, c'est très novateur d'avoir un projet global.
Donc c'est une semaine un petit peu particulière puisque samedi, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. J'imagine, hélas, que à la Maison Olympe, vous recevez aussi des personnes ayant subi des violences sexuelles ou sexistes.
Au niveau du centre de santé, on attache une grande importance à repérer. Déjà, le lieu est travaillé pour être chaleureux, accueillant, donc... Déjà pour ça, le lieu est innovant, parce qu'effectivement, quand on pousse la porte de Maison Olympe, on n'a pas l'impression de se retrouver dans un cabinet médical. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour être très accueillant. Et l'identité de Maison Olympe, elle est déjà identifiée par les personnes qui poussent la porte. C'est-à-dire qu'elles savent, ces personnes-là, qu'elles sont dans un lieu où il est possible d'aborder ces histoires de vie, et notamment quand on a été victime de violences. Au niveau des consultations, il est systématiquement posé la question lors de chaque consultation. S'il y a eu des événements de vie, dès l'enfance, de violences, d'agressions, de violences de tout type, dès l'enfance, parce que c'est très important, à la fois de repérer parce que ça a des impacts majeurs sur la santé, et à la fois de repérer pour pouvoir après accompagner, parce que à Maison Olympe, on repère et on accompagne, on prend en charge, pas seul, on est en partenariat avec les autres lieux qui proposent déjà une prise en charge, mais on apporte une approche de soins primaires sur un quartier danger, sur un quartier prioritaire.
Ah oui, d'accord. Et est-ce que vous accueillez également des personnes mineures?
À partir du moment où on a besoin de soins en santé gynécologique, oui.
D'accord.
Au niveau de l'association, les ateliers sont réservés aux personnes majeures.
Oui, d'accord.
Mais sur la santé,
santé,
oui.
D'accord.
Et vous fonctionnez comment? Je veux dire, financièrement, c'est compliqué peut-être.
Alors, on a la chance d'être soutenu par l'ARS aujourd'hui, qui nous a aidé au démarrage.
Agence régionale de santé.
Tout à fait. On a la mairie aussi qui nous soutient par la mise à disposition d'une convention pour un local que nous louons sur le quartier, mais avec des travaux qui ont pu être effectués par la mairie. Et dans un an, nous allons déménager au manoir du Grand Nozay.
Ah bon.
Donc c'est aussi un soutien. Donc c'est toujours au cœur de mon plaisir, parce que c'est important pour nous d'être identifiés à ce quartier et à cette dynamique, mais qui est de l'autre côté de la place de l'Europe par rapport à notre endroit actuel.
D'accord. Et comment prendre rendez-vous? Seulement par téléphone?
Alors déjà, on peut pousser la porte de Maison Olympe.
Oui.
Donc
oui.
Il y a toujours des accueillantes, il y a du café, du thé pour patienter. Il y a aussi plein d'informations pour se renseigner, des affichages. On peut téléphoner et on peut aussi prendre rendez-vous sur Doctolib.
Ah oui, d'accord.
Pour finir, est-ce qu'il y a une action là qui va peut-être être mise en place, dont vous aimeriez parler?
Alors, on a beaucoup d'actions desquelles on aimerait parler. Pour revenir au thème du 25 novembre, jeudi après-midi, on organise un atelier de création de messages pour lutter contre les violences qui sont faites aux femmes, en groupe de parole. Mais créer ensemble des supports qui nous permettent de dire non aux violences.
Je me posais une question, vous avez aussi des traducteurs, traductrices?
Alors, on a dans l'équipe de bénévoles des personnes qui sont déjà médiateurs ou médiatrices en santé, donc qui peuvent être interprètes, et on utilise aussi l'interprétariat téléphonique lors des consultations.
Et on a la chance d'avoir dans notre équipe Nadia qui peut nous traduire beaucoup de choses.
Ah.
Et où peut-on vous contacter?
Vous pouvez prendre pour le centre de santé des rendez-vous directement sur Doctolib, en tapant Maison Olympe avec les motifs de consultation. Ouais. Mais comme le disait Élise, poussez la porte aux 3 rues de l'écriture. Sinon, on a une page Instagram.
Donc 3 rues de l'écriture, c'est tout près de la MPT.
C'est à côté de la MPT. Moi, je suis passé, j'ai tout de suite repéré les locaux.
Et on a eu la chance d'être très bien accueillis par la MPT.
On a aussi un formulaire de contact sur notre page internet.
Très bien, vous voulez donner le nom C'est Maison Olympe sur Instagram, sur...
Alors sur Instagram, c'est Association Maison Olympe et sur Internet, c'est maison-olympe.org.
Bravo pour cette initiative et longue vie à votre association.
Merci. Merci, merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Et oui, vous êtes bien de retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter Balance ton quoi, une chanson féministe de l'auteur, compositrice, interprète belge Angèle. Alors, la surprise de l'émission, je vous ai parlé d'une chronique. Eh bien, c'est une chronique absolument magnifique que Sophie, une de nos fidèles animatrices, nous a envoyée. Cela s'appelle Les Déterminés.
Qu'elles s'appellent Aya, Maria, Christine, Inoya, Iris, Asme, Alice, Louise, Arma, José, Sandrine. Elles sont déterminées. Depuis leur adolescence, voire plus jeune, elles se savent attirées par les personnes du même sexe qu'elles. Cachées, elles se reconnaissent, se connaissent, développent des subterfuges pour qu'on ne les découvre pas. Et pourtant, il suffit d'un jour, une fois, et patatrac, on les soupçonne, on les a vus, on les dénonce, on sait, on filme. Et là, les représailles sont terribles. Frappées, humiliées, rejetées, violées, la famille est là. Garante de sa réputation. La famille déshonorée enferme, exclue, déshérite, désenvoûte les sorcières, les maris, les moins que rien, les lesbiennes déviantes dont les actes remettent en question le mâle dominant. Alors, on va leur faire payer. La famille garante commandite les viols correctifs, les dénonciations à la police, qui se doit de corriger, de faire payer leur détermination, et on les poursuit pour les faire disparaître. Alors, fortes et déterminées, elles se sont enfuies, seules souvent, rapidement, subitement, en laissant tout derrière elles. Affaires, situations, famille, amis, enfants souvent. Les frontières, elles les ont traversées, le plus souvent au péril de leur vie, de leur corps. Là encore, elles sont des proies faciles, car femmes, on leur demande de donner ou vendre leur corps en échange de services, d'argent, de silence, de passage. Déterminées, vous l'êtes, alors qu'en France ou ailleurs, on ne vous attend pas. Et un autre parcours du combattant commence, celui de la survie de chaque jour. La peur au ventre d'être à nouveau abusé, exploité, violé. Arrive le temps où il faut dire, justifier, donner des explications dans la douleur. Qui vous consolera? Qui vous réparera? Tout reste à construire.
C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Parlons tout d'abord de Gaza. Il y a quelques jours a eu lieu la conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. Et une personne reprenait la citation d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Nous ne vivons pas une crise humanitaire, mais nous vivons une crise de l'humanité. Ces mots résonnent si fortement à la lecture des dernières actualités. Les nouvelles horribles qui nous parviennent du nord de la bande de Gaza, où des hôpitaux sont la cible de tirs, où des nouveau-nés et des patients en soins intensifs sont laissés à l'abandon. De carburant, d'électricité, d'eau, de médicaments et de nourriture. Souligne la nécessité urgente d'un cessez-le-feu immédiat de la part de toutes les parties au conflit. Si vous n'avez pas encore signé notre pétition mondiale pour appeler au cessez-le-feu, allez sur le site d'Amnesty et signez.
Pour la fabrication des batteries de leurs véhicules électriques, BMW et Renault s'affichent en champions de la mine responsable. Ces deux entreprises s'approvisionnent en cobalt au Maroc, auprès de la Managem, grande entreprise minière appartenant à la famille royale. Mais les campagnes de presse vantant leur politique d'achat de matières premières éthiques est mensongère et indécente. L'extraction de cobalt se déroule en fait dans des conditions choquantes, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, du droit du travail et de la liberté d'association. Comme l'a révélé un consortium d'investigation, elle est responsable de violations de droits humains, d'une pollution majeure à l'arsenic et menace les ressources en eau de la région. Face à la justice sociale et l'urgence écologique, les constructeurs automobiles et les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités.
Dans un contexte d'inflation catastrophique à 145% et de pauvreté accrue, l'Argentine organisait ce dimanche le second tour d'une présidentielle incertaine, la plus indécise depuis le retour de la démocratie en 1983. Et c'est l'ultralibéral antisystème Javier Milei qui a remporté largement l'élection contre le ministre de l'économie, le péroniste Sergio Massa. Beaucoup s'inquiètent d'un saut dans le vide. En effet, cet anarcho-capitaliste, comme il aime à se décrire, admire Donald Trump et nie la responsabilité humaine dans le changement climatique. Il a fait campagne en brandissant une tronçonneuse, symbole pour lui des coupes massives qu'il promet d'opérer dans les budgets de l'État.
Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France se succèdent et ont toujours les mêmes conséquences. Le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Le nouveau projet de loi nommé Asile et Immigration, actuellement au Sénat, confirme une fois de plus cette érosion. Le premier exemple concerne l'AME, c'est le dispositif actuel qui permet aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Le gouvernement souhaite le remplacer par une aide médicale d'urgence qui ne permettrait plus le remboursement d'un grand nombre de soins et donc en réduirait l'accès pour les personnes les plus précaires. L'autre exemple concerne les juges pour les demandes de recours d'asile. Aujourd'hui, ces demandes sont le plus souvent étudiées par 3 juges qui possèdent des expertises différentes lors d'une audience à la Cour nationale du droit d'asile. Ces 3 juges siègent ensemble. C'est ce qu'on appelle le principe de collégialité. Eh bien, dans le projet de loi, ce principe garant de l'impartialité sera supprimé.
Le 21 juin dernier, le gouvernement avait prononcé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Cette instrumentalisation politique visait entre autres à justifier a posteriori les excès de violence de la répression de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline. Le collectif avait alors saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation assorti d'un référé suspension. Le 9 novembre dernier, ce même Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements en jugeant qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de violence envers les personnes et que les provocations à des agissements violents à l'encontre des biens ne pouvaient justifier sa dissolution. Une victoire importante pour le droit à la désobéissance civile.
Et maintenant, Jennifer, c'est ton tour. Nous allons écouter ta chronique de l'antenne jeune d'Amnesty Angers.
Merci. Alors, dans le cadre du dernier rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, sorti en octobre 2023, nous avons découvert une recrudescence alarmante du racisme en Europe. Nous voulions donc observer son impact chez les jeunes et notamment dans leur vie d'étudiants et le début de leur vie professionnelle. Les jeunes issus de l'immigration, afro-descendants ou venant de la communauté rom sont les plus touchés. De manière plus générale, le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance souligne que parmi les minorités religieuses, les musulmans sont particulièrement soumis aux inégalités et discriminations. Les jeunes femmes sont également plus exposées que les autres, que ce soit à cause de leur nom de famille, du quartier où ils habitent, ou même de leur manière de s'habiller, avec le voile pour les filles par exemple. Ces jeunes ressentent de fortes discriminations au moment de l'embauche, se sentant davantage jugés par rapport à leur origine que par rapport à leurs compétences. En effet, malgré un diplôme similaire, il est deux fois plus difficile pour un étudiant issu de l'immigration de trouver un travail en France. On doute de leur niveau de français, on estime qu'ils n'arriveront pas à s'intégrer à l'entreprise. Les raisons pour lesquelles ils ne sont pas embauchés sont les plus souvent injustifiées. Le journal Le Monde rapporte le témoignage d'Anouar Minat, élevé dans un quartier populaire de Chambéry. Fils d'un ouvrier plaquiste et d'une femme au foyer originaire du Maroc, le jeune homme avait pourtant l'habitude des remarques déplacées. Son arrivée à Sciences Po Grenoble avait été un premier choc de classe. Je ressentais bien la différence, j'étais le boursier échelon 7, qui plus est. Et je pensais que ce décalage disparaîtrait au travail. Or, c'est là qu'il est le plus violent, témoigne-t-il. Ces stéréotypes, souvent véhiculés par les médias, devraient être davantage réprimés par les institutions et les gouvernements. Les politiques antidiscriminatoires ne sont pas assez développées dans la plupart des pays européens, selon le rapport de l'UE. Et cela se répercute notamment dans le quotidien des jeunes.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 et c'est le temps de l'agenda militant et culturel et il est bien rempli pour cette fin d'année.
Tout le mois de novembre, l'exposition Femmes, Vie, Liberté vous attend dans le Forum du 4. Elle est composée de 100 affiches réalisées en soutien au peuple iranien dans ses manifestations suite au décès de Mahsa Amini.
Jeudi 23 novembre, 20h30 à la MPT Mon Plaisir. Soirée de soutien aux greffes avec le spectacle La Nuit Promet d'être belle de la compagnie et Oliarp, un hommage à Jacques Higelin à ne pas manquer.
Également le jeudi 23, désolé Philippe, à 19h30 au 4, ciné-débat avec le film La Permission. C'est l'histoire d'une femme iranienne qui doit réussir à convaincre son mari de la laisser se rendre pour jouer au futsal à la finale de la Coupe des Nations. C'est d'après une histoire vraie, c'est gratuit mais il faut s'inscrire.
Dans ses repas palestiniens au centre Marcel Menet, le vendredi 24 novembre à 19h.
À 16h, samedi 25 novembre, devant la mairie d'Angers, le collectif du 8 mars organise une marche à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Un magnifique concert au Shabada, les musiciens pour la Palestine, c'est mercredi 29 novembre à 20h.
Une conférence gesticulée, moi, français, juif et arabe, le jeudi 30 novembre à 20h, à la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin.
Au théâtre du champ de bataille, hommage à Mahmoud Darwish, une exposition des affiches de Ernest Pignon Ernest, les vendredis et samedis de 14h à 19h jusqu'au 14 décembre.
Et n'oubliez pas notre rendez-vous traditionnel, les 10 jours pour signer, se déroulera cette année à la bibliothèque Nelson Mandela, du mardi 5 décembre au samedi 9 décembre, ainsi qu'à la bibliothèque universitaire à Saint-Serge, du jeudi 30 novembre au jeudi 7 décembre. Venez nombreux signer nos pétitions, apportez votre soutien aux 10 défenseurs des droits humains.
Enfin, le 8, 9 et 10 décembre, salle du Doyenné, près de Shabada, exposition photo et vente d'artisanat tibétain et népalais au profit des Tibétains réfugiés en Inde par l'association Le Toit du Monde.
Et il est presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Charline et Élise pour leur venue, mais aussi pour la création de cette maison formidable, la Maison Olympe. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
À très bientôt.
À bientôt.
Thank you.